Bonsoir à tous d'abord. Avant de commencer, quelques avertissements de rigueur. J'ai renommé rapidement la petite présentation Souvenir InfoWarCon, parce que je sais que demain il y a une conférence plus spécifique sur la guerre d'information, et je ne voudrais pas que ce soit perçu comme un vol de vedette. Je pars du principe que les termes InfoGuerre et compagnie seront définis demain mieux que je pourrais le faire ce soir. Donc c'est plus un petit retour d'expérience sur ce qui a pu être dit il y a maintenant 8-7 ans, lors de conférences d'origine États-Unis, anglo-saxons, en Europe, sur tout ce qui était problème d'info-warfare, ou info-warfare, si on anticipe un peu sur la conclusion. Et ensuite, autre petite remarque. Pardon ? Je suis travailleur indépendant, je suis consultant indépendant en ingénierie réseau et système. Je vais éviter ça pour aller plus vite. Et autre avertissement, certaines des idées et des concepts qui sont décrits dans cette présentation ne reflètent pas mes idées ni mes propres vues, notamment géopolitiques et géostratégiques. Je vais faire un petit peu un compte-rendu de ce qui se racontait dans ces années-là sur ce sujet-là. Donc le contexte rapidement, dans lequel se situaient ces conférences. On sortait de la guerre froide, il y avait rapidement eu remplacement de l'affrontement Est-Ouest par l'affrontement Nord-Sud. Au Nord, les gentils pays industrialisés, au Sud, les méchants barbares sans foi ni loi, avec déjà les premières appellations d'État volumes. Ensuite, il y avait la sensation par certains acteurs que les concepts de guerre économique allaient impliquer des acteurs non étatiques, typiquement des sociétés nationales, voire même multinationales, mais que les conséquences de ces affrontements, notamment tout ce qui était chômage, crise boursière, pollution, reposeraient 100% sur les États. Ça posait un petit problème. Et enfin, il y avait une baisse des budgets militaires, des tentes obligent, et certaines personnes ne voyaient pas forcément ça d'un bon œil, parce que leur activité économique dépendait fortement de ces budgets. Ça, c'est une interprétation un petit peu polémique. Ensuite, l'info-warfare, pourquoi faire ? Particulièrement sur quelle base ? L'un des premiers qui a commencé à parler de guerre d'information, c'était Alfred Toffler, dans un ouvrage qui s'appelait 3 du choc, et qui en gros disait, on entre dans l'âge de la société de l'information, à savoir que tout ce qui sera information sera la base de toute activité humaine, et celui qui détiendra le pouvoir sera celui qui détiendra l'information. Et donc, associé à l'information, et bien guerre d'information. Au même moment, on avait l'ouverture d'Internet au monde commercial. Et dans cette mouvance-là, on a trouvé deux gugus, américains tous les deux. Le premier, Dean Schwartow, qui vit depuis maintenant presque 10 ans sur une seule idée, le Pearl Harbor de Greg Treadwell. Et d'un côté, Robert Steele, un ancien de la CIA, enfin, c'est comme ça qu'il se présente, il peut bien faire confiance à un espion, et l'exploitation des sources ouvertes. Donc sur Schwartow, en fait non, c'est sur Steele pour commencer. Donc Steele, lui, se présente comme un ancien de la CIA, des opérations clandestines, les réserves possibles à mettre. Lui, son cheval de bataille, entre guillemets, c'est renseigner, ça coûte cher. Les pays riches doivent faire face à des menaces communes, type terrorisme, prolifération nucléaire et autres. Mais en même temps, il y a une baisse des budgets militaires. À côté de ça, on a les réseaux type Internet qui permettent d'acquérir facilement l'information gratuite. C'est ce qu'il appelle lui les sources ouvertes. En gros, c'est tout ce qui est information que vous pouvez récupérer sans payer ou, si on paye, sans restriction type non-disclosure agreement ou, en cas d'information nationale, secrète. Donc sa solution à lui pour faire face à ce challenge, c'est exploiter les sources ouvertes, Internet, par le biais de sa société, bien sûr, OSS. Alors, il y a un petit jeu de mots sur OSS. OSS, c'était l'ancien service qui faisait office de CIA avant 1947. Un petit peu comme si l'amiral Lacoste avait monté une boîte qui s'appelait SDEC. Le même genre d'humour américain qu'on peut trouver. Et il a monté avec Schwartow, l'Info Warfare, l'Information Warfare Conférence, aux États-Unis à partir de 1994. Alors Schwartow, lui, c'est un journaliste essayiste qui a fait beaucoup de vulgarisation autour de la sécurité informatique et de tout ce qui était problème de sécurité sur Internet. notamment pourquoi les petites enfants sont en danger face au site porno, etc., etc. Et en 94, il a eu une idée géniale qui a fait vivre pas mal de temps. Il a inventé le terme électronique polar. En fait, son idée, c'est, comme disait tout à l'heure Nicolas, c'est j'ai oublié son nom. Enfin bref, Internet constitue pour les nations les plus riches et les industrielles une ressource critique au même titre que les réseaux de transport, l'énergie, l'eau, etc. Et donc il est possible à un État malveillant, une organisation mafieuse malveillante, de foutre à plat tous ces réseaux via Internet, que par Internet. Et si on ne se prépare pas, si les États-Unis ne se préparent pas à ça, eh ben, ils se condamnent à revivre un peu à l'arbre, mais cette fois-ci électronique. Qui, selon lui, sera pas forcément moins impressionnant que le Pearl Harbor 41, si ce n'est plus. Et donc, avec ce tandem-là, Steele et Chartou, on a les deux piliers des infos à faire conférence, avec des intérêts un petit peu parfois convergents, sans pour autant éliminer des sources de conflit. Donc voilà le prélude officiel que vont développer ces deux personnes à travers les conférences qui se sont tenues en Europe en 95 et 96. Donc Internet, c'est une menace réelle et sérieuse, pour faire pas l'arbre. C'est aussi une mine d'informations non négligeable, le sage est en gros. Et au milieu de tout ça, à la fois en menace mais également en ressources, on trouve qui? Eh bien, les méchants hackers, qui peuvent à la fois donc, lancer un programme contre les États-Unis. L'Europe, à cette époque-là, était, on va dire, personnel sacrifié. Et, mais qui peuvent également, s'ils sont bien intégrés, bien récupérés, agir en tant non pas de pirate mais de corsaire. Et là, il y a des châteaux qui, lui, défendaient le côté ou les vieux hackers à travers l'exemple d'un japonais, exemple pris au hasard sûrement. Et il y a les styles qui, lui, plaidaient pour les gentils hackers américains qui, par patriotisme, vont défendre nos infrastructures critiques. Et dans ces gentils hackers, on avait là les gens de Loft, qui étaient copains à l'époque avec Steele. Donc les conférences étaient organisées autour de thèmes, un petit peu comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il y avait quand même parmi ces voix américaines un petit peu blâme, à l'emporte-pièce, quelques Européens qui ont eu des idées un petit peu discordantes et pas forcément inintéressantes, notamment une juge belge qui, elle, voyait plus dans Internet une source d'encombrement et d'engorgement des tribunaux, notamment parce que toutes les lois nationales ne concordaient pas entre elles sur un même crime. Donc elle a pas mal cerné un des problèmes importants. Et un professeur hollandais qui vivait dans la foudre, ça change rien tout la face du monde. Ce sont juste de nouveaux outils mis entre les mains de personnes déjà malfaisantes pour pouvoir en faire tout un pataquès, hein, si ce n'est effectivement pour vendre des bouquins pour Chartaud et vendre ses prestations pour Steele. En gros. Cependant, il y a eu quelques suites assez concrètes, pas forcément liées à Steele et Chartaud, qui ont peut-être un petit peu anticipé sur ce qui se préparait déjà côté américain, notamment la création du National Infrastructure Protection Center, dédié à tout ce qui était protection des infrastructures critiques, dont Internet. En France, on a eu une création d'école des guerres économiques, mais ça, il y a une vision un petit peu plus francophone de l'infoguerre, qui était un peu moins axée sur tout ce qui était sécurité informatique et électronique. Hein. Il y a eu également cette merveilleuse idée émise par un officiel américain qui consistait à dire, puisqu'Internet est une ressource critique, toute attaque menée contre cette ressource devra appeler de la part des Américains une riposte, y compris physique. On peut aller carrément jusqu'à parler de placer des détecteurs GPS sur les routeurs pour pouvoir envoyer un tomahawk à la tranche d'un hacker qui faudrait faire l'attaque d'os contre un Washington, un bout ou quelque chose. Et récemment, on a réentendu j'ai entendu ça quelques mois à la dernière en mars. Il parlait également aussi de rebalancer à la tronche des hackers des B-52. Envie de conclusion. Bah, on avait en fait une sorte de convergence affichée entre sécurité informatique comme outil au service de la sécurité information. Et puis en fait, il y avait aussi une confusion entre sécurité informatique qui n'est pas la sécurité information, pour aboutir à l'arrivée en 96 par pratiquement une prise de dette entre les deux cofondateurs, puisque leurs intérêts commencent à diverger. Il n'y a pas eu autant, a priori, d'écho de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre au sujet de la conférence. C'est la fin de l'hiver. Je crois qu'en 87, donc, les gens sont partis sans payer. Ça a dû faire un coup assez important dans les finances de la NCSA qui s'était entre-temps greffée à l'organisation. Et on a toujours entendu parler d'un pouvoir faire à Bruxelles. Ok. capitulé ou une édition à Londres, mais sur Bruxelles. Une fois.